Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Koudak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux social ads et à la créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Koudak, vous pouvez vous rendre sur le site koudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Bruts e-commerce avec encore une fois une nouvelle invitée cette semaine. J'ai l'honneur de recevoir Pauline de la marque Sios. Comment tu vas ?
Ça va bien et toi Théo ?
Écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir parce qu'on va pouvoir discuter d'un sujet très important qui est celui de l'international puisqu'on en a discuté en préparant cet épisode. Vous avez 85% de vos ventes qui sont faites hors de France, donc nécessairement ça a certainement tout un impact sur toutes les stratégies que vous mettez en place pour vous développer. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir creuser ensemble pendant ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Entre 45 minutes et 1h, donc je t'aurai lâché à 18h, il est 17h07. On va essayer d'être concis et clair. Est-ce que, avant qu'on se lance dans le détail, les stratégies de croissance et tout ce qui en découle, tu peux nous représenter Sios et nous dire un petit peu ce que toi tu y fais?
Eh bien oui, avec plaisir. Donc Sios, on fabrique des becs de saxophone et de clarinette en impression 3D. Donc à la base, on a commencé avec un premier produit qui était un bec sur mesure. Donc en fait, on demande aux musiciens de nous expliquer quel est le son qu'ils recherchent. Et nous, on va vraiment designer un bec pour pouvoir lui offrir ce son-là plus facilement. Et puis, on a commencé en 2016 avec ce premier produit. Et puis après, pour grossir, on a sorti des nouveaux produits un peu plus simples, un peu plus faciles à vendre aussi, plus tournés vers des gens un peu plus débutants. Donc, on a sorti des becs signature, où en fait, c'est des copies des becs qu'on fabrique, qu'on a designé pour des artistes connus. Donc, les gens peuvent acheter la copie exacte de ce bec-là. Et puis là, plus récemment, on a sorti une nouvelle gamme aussi qu'on appelle les Sios Originals, qui sont une gamme très simple où on a juste trois modèles par type de saxophone. Un modèle qui va être très mat, un modèle plutôt au milieu, assez flexible, et puis un modèle qui va être très brillant, très puissant, plus pour jouer du rock ou de la funk, par exemple.
Ok, c'est marrant parce que ce marché-là, quand tu le décris, enfin d'instinct qu'on ne le connaît pas, a l'air d'être un marché assez petit. Peut-être qu'il est petit en France, mais qu'il est grand à l'international. Est-ce que c'est un truc que tu as pris en compte quand tu t'es lancé dans ton aventure ?
Bah, c'est sûr que c'est ce qu'on appelle un marché de niche. Hein, quand on est allé voir les investisseurs, ils nous ont tous dit ça, on a bien compris. Donc oui, c'est un petit marché. Des saxophonistes, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Après, il y en a quand même un certain nombre. Et puis c'est pour ça aussi que nous, on a décidé d'aller assez rapidement à l'international pour pouvoir toucher un marché plus large. Pour le petit exemple, là, on fait environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on a 1% du marché sur les US, par exemple. Donc il y a encore de la marge.
Ok, donc même aux US, le marché n'est pas gigantesque.
Non, il n'est pas infini, mais en tout cas, il y a quand même de la marge pour faire une boîte sympa avec du chiffre d'affaires quand même.
Ok, et comment ça s'est passé, comment du coup la relation avec les investisseurs finalement? Vous avez levé de l'argent, vous n'en avez pas levé, et si oui, comment?
Ben, on a quand même levé de l'argent, c'était un peu inespéré. Non, en fait, on a rencontré assez tôt un fonds d'investissement qui s'appelle IT Translation, qui est un fonds en fait qui avait été créé par l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique. Alors, faut peut-être que je donne un peu mon background aussi. En fait, moi, à la base, avant de créer Sios, j'étais chercheur en acoustique. J'ai fait une thèse sur l'acoustique des instruments de musique à l'IRCAM à Paris, un des instituts les plus reconnus au monde sur tout ce qui est acoustique, hein, qui a été créé par Pierre Boulez. Et puis après, j'ai fait un post-doctorat à l'Université McGill de Montréal. Puis c'est là que j'ai beaucoup travaillé sur les becs de saxophone et que j'ai eu l'idée de Sios. Quand j'ai commencé, moi j'ai commencé toute seule au début, hein. Après j'ai rencontré Maxime, on a cofondé la boîte en 2016, mais un peu avant, j'avais postulé pour le concours, j'avais fait un dossier pour le concours qui s'appelle iLab, qui est plutôt sur de la deep tech, hein, on va dire, et j'avais gagné ce concours-là en ce qu'ils appelaient en émergence à l'époque, donc c'était 45 000 euros de subvention pour le projet, donc ce qui était cool pour pour se lancer. Puis à la remise des prix, c'est là que j'ai rencontré Sophie qui travaillait donc dans ce fonds d'investissement et qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les boîtes qui ont été créées justement par des chercheurs. Et donc c'est comme ça qu'on a pas mal discuté et qu'on a vu que, bah, qu'on avait des points d'intérêt communs, et eux ils étaient quand même plus intéressés sur des boîtes qui faisaient de la recherche, donc qui est peut-être un peu moins sur trouver la licorne comme la plupart des autres investisseurs, voilà. Et puis ce fonds a été racheté par Elaya il y a quelques années là, donc voilà, maintenant on est chez Elaya.
Ok, du démarrage du coup, est-ce que tu as employé des méthodologies classiques pour tester ton marché avec un genre de MVP, ou est-ce que tu t'es lancé directement en disant « ok, j'ai une innovation produit » et je pense que ça va fonctionner ? Ça ressemble à quoi la genèse de Sios ?
Bah ouais, je crois qu'on fait tout ça. De toute façon, il vaut mieux. Moi, j'ai tendance à être un peu perfectionniste, donc c'est compliqué. Mais oui, on m'a un peu forcé à me lancer effectivement avant d'avoir un truc parfait. Donc ce que j'ai fait au tout début, c'est que j'ai designé les becs, donc j'ai appris à utiliser tous les logiciels de design 3D, j'ai fait ça toute seule, et après je suis partie dans un Fab Lab où j'ai commencé à imprimer des becs. Et après, j'ai contacté plein de musiciens à Paris pour venir leur faire tester, comprendre quelles étaient justement quelle était l'influence de la géométrie, comment je pouvais relier ça à leurs besoins, comment j'allais trouver les meilleures géométries. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis assez rapidement, je suis quand même tombée sur des designs qui me plaisaient, qui plaisaient aux musiciens surtout. Et donc là, j'ai lancé un site à l'époque. C'était un striking. Je crois, je sais pas si ça existe encore, mais
j'ai utilisé Strikingly aussi. C'était il y a longtemps. Hein.
Ouais, tu vois. on est des vieux maintenant, c'est ça. Et donc j'ai sorti ce Strikingly là où j'ai dû dire aux gens, ce nouveau projet, je fais des becs sur mesure, je vous propose de faire un bec sur mesure. Vous payez que les frais de port, le reste est offert, quoi. Et puis j'ai lancé pas 10 € de pub sur Facebook, et puis j'ai eu, je pense, une vingtaine de clients comme ça au début, donc ça m'a permis de tester aussi un peu le concept. Puis c'est marrant, en faisant ça, finalement, après, il y a des musiciens pros qui m'ont contacté, donc on a commencé à travailler ensemble, et puis c'était comme, j'ai fait comme ça au tout début, et après, assez rapidement, j'ai commencé à faire payer les gens à un prix qui était à peu près le prix qu'on fait même maintenant, en fait. Hein. Et même si, finalement, quand je vois les produits qu'on a maintenant et ceux qu'on avait à l'époque, par exemple, au niveau de la finition et tout, on a beaucoup beaucoup travaillé sur améliorer la finition des becs, on a changé de matériaux en cours de route, on a changé de machine, donc c'est vrai qu'à l'époque les becs ils étaient pas aussi beaux qu'ils sont maintenant, mais bon voilà, c'est l'évolution naturelle des choses.
Est-ce que c'était un marché sur lequel il y avait quand même de la concurrence, même s'il était petit ?
Alors moi, si je me suis lancée, c'est que justement en fait, quand je suis rentrée en France après le Canada, enfin, je me suis rendu compte que c'était un marché super vieillissant, qu'il y avait zéro innovation, enfin, il ne s'était rien passé depuis presque 100 ans, quoi. Sur ce milieu-là, en fait, c'était un peu chiant comme milieu, quoi. Il y avait... c'était pas fun, quoi, en tout cas. Et puis, j'étais en contact avec des gros fabricants, puis je me suis rendu compte qu'ils n'investissaient pas du tout dans la R&D, tu vois, la recherche et le développement, qu'ils n'étaient pas prêts à investir et qu'ils n'étaient pas spécialement prêts à sortir des nouveaux produits, quoi. Donc je dirais que oui, il y a de la concurrence sur le marché existant, sur un peu les vieux dinosaures, quoi, mais il n'y avait pas de boîte jeune sur le marché. Mais en fait, c'est marrant, c'est qu'à l'époque, moi, je me rendais pas compte, enfin, je savais pas ce que c'était les DNVB et tout, et je me rends compte maintenant, même en écoutant des podcasts et tout, qu'en fait, on a fait exactement ce qu'on fait Teddy Bear sur le matelas ou d'autres marques comme ça. En fait, c'est pareil, c'est qu'on est arrivé, on s'est dit, il y a un marché qui est super vieux, qui a pas bougé, qui est chiant, il n'y a pas de com sur les réseaux sociaux, il s'adresse à personne, ils ont l'impression que c'est les meilleurs alors qu'ils font pas grand chose pour proposer des meilleurs produits, donc on va essayer de se lancer là-dedans pour, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment utiliser la science, utiliser les résultats que j'avais de mes recherches pour proposer des nouveaux produits qui étaient plus performants et plus sympa aussi, quoi. Nous, on était les premiers à du coup sortir des becs en couleur là où tout le monde faisait que du noir, quoi.
Ok. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes leader sur le marché ou pas ?
Bah, ça dépend quel marché. Tu dis, ouais, on est leader sur les becs imprimés en 3D, ça, ouais, c'est vrai. Sur les becs en couleur aussi, du coup. Après, on n'est pas leader sur la vente de becs. Les gros fabricants, ils ont quand même toujours plus de parts de marché que nous, mais on fait quand même notre bonhomme de chemin. Il y a quelques années, quand je suis arrivée, ils se moquaient un peu de nous quand même, avec nos becs en plastique fluo. Voilà, maintenant, ils rigolent un peu moins, je pense.
Ok, alors est-ce que tu l'as déjà un petit peu fait quand tu nous as dit que vous faisiez 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous compléter cet état des lieux de la croissance qu'on fait généralement autour de ce moment-là du podcast ?
On a fait... alors, comment ça s'est passé entre 2016 et 2000, entre 2017 et 2018, on a fait... on a pas mal grossi, on a eu du mal, enfin le début était un peu long parce que voilà, t'es quand même sur un marché où il y a beaucoup de mythes aussi sur les instruments de musique, notamment le mythe du matériau. En fait, les gens pensent que c'est le matériau qui fait le son, alors qu'en fait c'est pas le cas sur les instruments de musique avant, hein, c'est vraiment la géométrie interne de l'instrument qui va faire le son, mais c'est difficile à croire en fait. Donc on a eu beaucoup de pédagogie, ce qui fait que le début a été un peu long, bah 2016-2017, et après entre 2017-2018 on a quand même fait x5, et là ça c'était, on a bien grossi. Après on a refait un x2, et puis là sur 2020-2021 avec le Covid et tout, ça a été un peu plus compliqué, il y avait plus de concerts et tout, donc on s'est un peu stabilisé autour du 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais là avec notre stratégie sur 2022, on est reparti sur une bonne pente là.
Ok. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment elle s'est organisée, cette stratégie là? Donc une fois que tu as le produit qui est bon, tu sais que tu as un truc qui est normalement pas trop mal par rapport à ce que font les concurrents, tu dois faire grossir ça le plus vite possible. Tu as un background de chercheur, donc pas un background de growth marketer ou n'importe quel métier qui serait relié. Comment tu t'y prends?
Alors au tout début, je pense que le premier truc qu'on a fait, c'est qu'en fait déjà il nous fallait des musiciens pour tester les produits, parce que nous, enfin, on fait beaucoup ça quoi, on fait beaucoup de feedback et on améliore le produit en continu. Donc on faisait tester des ah oui, il y a eu une période où on était au NUMA à Paris dans l'accélérateur, ils nous avaient prêté la cave où il y avait les archives pour faire venir les musiciens. Donc voilà, on invitait tous les musiciens à venir dans la cave du NUMA, c'était assez marrant. On a même une vidéo du Monde qui est venue tourner dans la cave du NUMA, c'est marrant. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Facebook avec Maxime, et donc on avait nos comptes. Déjà, on s'était mis en photo où on avait tous les deux un saxophone et tout. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait en amis tous les gens qui avaient un saxophone en photo de profil. Et en fait, il y en a plein, et tous les musiciens, ils aiment bien se prendre en photo avec leur instrument. Donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est créé une première base qui était vachement efficace de musiciens. Et puis après... dès qu'on faisait venir un musicien pour tester, en fait, on lui demandait le numéro de 3 autres musiciens, et en fait, c'est allé assez vite comme ça. Le bouche-à-oreille sur Paris est allé super vite, plus le fait qu'on avait nos becs en couleur, et qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait tester, on postait les vidéos des tests sur Facebook, et un peu plus tard sur Instagram. Et du coup, en quelques mois, il y a les gens à Paris qui disaient « Ah, mais on vous voit partout !» et tout. Donc ça, c'était assez drôle, en tout cas sur ce petit écosystème-là. Et après, ça, c'était vraiment le premier truc qui a plutôt bien marché. Et après, ce qui nous a vraiment fait nous développer, et puis surtout à l'international, c'est vraiment les artistes, donc ce qu'on appelle l'influence, hein, mais donc... moi, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait des musiciens célèbres pour jouer les produits, pour les montrer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un peu ma liste de tous les musiciens avec qui j'avais envie de travailler. Souvent, ce que je faisais, c'est que je regardais les dates où ils venaient jouer à Paris. Et en fait, dès qu'il y avait un musicien qui venait jouer à Paris, je le contactais quelques semaines avant en lui disant « Salut ce qu'on peut se voir et tout », et la plupart du temps ils me disaient ok, donc c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et après là, on a commencé à travailler avec pas mal d'artistes. Donc au départ, c'était plutôt des artistes on va dire des artistes connus, mais pas forcément sur les réseaux sociaux, genre connus parce que voilà, c'est Joe Lovano, c'est Joshua Redman, et donc ces gars-là, bon bah voilà, dans le monde du jazz, ils sont super connus quoi. Après, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui étaient peut-être un peu moins connus, disons Ils n'avaient pas un nom, ils n'étaient pas en tête d'affiche dans les concerts, mais ils avaient des bonnes bases de followers sur les réseaux sociaux. Et donc après, on a pas mal aussi travaillé avec voilà, des saxophonistes qui avaient des followers sur Instagram, sur YouTube. Et voilà, et après, on leur donne les produits, ils les testent, et puis s'ils sont contents, ils les jouent, et on travaille comme ça.
Ok, donc ce qui, en gros, s'appelle un peu une stratégie ambassadeur. Avec, si je comprends bien, pour traduire ça, ça fait un peu des macro-influenceurs qui sont l'équivalent des grands artistes respectés par tout le monde et des gens un petit peu plus micro. C'est intéressant parce que quand j'en parle avec des gens qui ont pas mal exploité ce canal général qui est en fait celui de l'influence, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est de pousser la collab pas juste en tant que placement, donc dirais je connais cette marque, c'est stylé, mais vraiment de faire le truc dont tu nous parlais un petit peu en introduction, de créer un truc ensemble. Donc en fait on va créer un modèle pour toi, et ensuite ce truc-là va en faire une collection. C'est un truc que vous avez commencé à faire quand ça? Dès que vous avez commencé à rencontrer les artistes?
Ça a pris un peu de temps en fait. C'est vrai que nous au départ on était vraiment à fond sur nos becs sur mesure, tu vois, on se disait que c'était quand même ça notre valeur ajoutée, tu vois, il y avait que nous qui faisions ça dans le milieu. Après en fait on s'est aussi vite rendu compte que c'était quand même pas facile à vendre, tu vois, et que c'était quand même réservé à une élite, enfin en tout cas à des musiciens qui savent bien jouer et qui savent vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Et le musicien qui commence ou il sait pas toujours ce qu'il veut, donc il va pas se faire un bec sur mesure, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, c'était fin 2018, il faut qu'on trouve quelque chose de plus simple à vendre, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir quand même pas mal d'artistes connus avec qui on travaillait, et là on s'est dit ouais, en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Il faut qu'on développe des becs avec des artistes et qu'on propose aux gens de les acheter. Et ça on a lancé ça fin 2018, et c'est ça qui nous a vraiment fait notre croissance sur les années suivantes, quoi.
Vous en avez fait combien des collections personnalisées comme ça?
On en a une soixantaine, quoi, avec des artistes, ouais.
Ok, et c'est des trucs qui continuent à se vendre dans le temps, ou alors ça fait un gros effet de lancement et ensuite faut refaire?
Ça dépend, globalement ça continue à se vendre dans le temps. Après là c'est vrai que comme on a sorti une autre gamme encore plus simple, parce que déjà comme on commence à avoir une grosse collection d'artistes et c'est pas toujours évident, alors soit t'achètes pour l'artiste, bon là c'est clair, mais si tu veux acheter pour le son, c'était plus difficile de naviguer là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup de références, et puis quand la référence elle a un nom d'artiste, c'est pas toujours clair de ce que ça va t'apporter en termes de son. C'est pour ça qu'après on a sorti notre dernière collection, là, les Originals, où vraiment ça s'est tourné vers juste le son, en disant voilà, tu veux tel son mat pour faire des balades de jazz, ça va être celui-là, et tu veux un truc super puissant pour faire du rock, ben ça va plutôt être celui-là. Et donc là c'est vrai qu'avec ce nouveau produit qu'on vend en plus un peu moins cher, ça a switché aussi les achats vers cette collection-là. Mais après on vend quand même toujours des becs signature.
Je suis assez curieux sur, je sais que vous bossez avec du coup Sébastien Tortu, qui est passé aussi dans mon podcast, qui est du coup consultant en branding, qui a écrit entre autres le bouquin, voilà. Je crois que tu m'avais dit que tu l'avais découvert dans le podcast, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est après l'avoir entendu chez toi que je l'ai appelé en disant « Ah, mais j'ai envie de travailler avec toi, donc merci.
» excellent. Je suis ravi que ça puisse donner de la visibilité. C'est un gars très cool. Et qui a écrit un très bon bouquin aussi qui s'appelle « L'Ikigai de Marc », dans lequel il y a un petit passage de votre serviteur. Donc voilà, allez l'acheter si vous ne l'avez pas encore acheté. Et donc, je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'on brande une marque comme ça, et quels ont été un petit peu les apprentissages que vous avez appris, bah, du coup, sur comment est-ce que vous devez vous positionner dans votre environnement concurrentiel, et quels sont les messages en fait derrière qu'on va faire passer derrière un bijou d'innovation plutôt technique, qui sont pas forcément faciles à brander, parce que c'est plutôt, enfin voilà, c'est je t'emmène d'un point A à un point B. Comment est-ce que vous avez du coup travaillé votre univers de marque?
Ah, c'est une très bonne question. On se pose toujours encore la question. C'est un peu, j'ai l'impression, une remise en question permanente. En fait, ça a pas mal évolué aussi avec les produits. Tu vois, quand on a commencé, vu qu'on était vraiment sur le custom, que c'était notre truc, on était chercheurs, on a beaucoup axé là-dessus, recherche, science, technologie et tout. Et puis après, quand on a voulu être un peu plus mainstream, on a un peu... j'ai l'impression qu'on a un peu mis ça sous le tapis en focalisant beaucoup plus sur le produit, en disant que notre bec était plus facile à jouer que les autres becs du commerce, ce qui est le cas, et ce qui est dû aussi au fait que qu'on ait redesigné un peu tous les becs sans copier les autres fabricants qui ont tendance à se copier les uns les autres. Nous, on a dit on repart de zéro et on va designer un truc qui marche mieux. Donc on était plus là-dessus, plus vraiment produit, genre ce bec il est top, il va vous permettre d'avoir le son que vous voulez et plus facilement. Et là on se rend compte qu'on s'est un peu perdu dans la bataille, parce que justement on s'est un peu trop caché derrière ça, et que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu notre identité là, parce que la science, moi et Maxime, parce que Maxime, mon associé, il est aussi chercheur en acoustique en fait, un bon duo de chercheurs. En fait, c'est ça aussi qui fait l'identité de la marque, et je pense qu'il faut le montrer plus quoi. Donc on essaye de se remettre un peu en avant aussi sur les réseaux sociaux, de proposer un peu plus de contenu pédagogique. C'est pareil, au tout début, on écrivait beaucoup d'articles de blog, beaucoup d'articles pédagogiques, comme je te disais, pour expliquer que le matériau n'a pas d'influence, pour expliquer pourquoi nos becs, ils ont plusieurs tailles, plusieurs longueurs, qu'est-ce que ça change sur la tonalité, sur la justesse et tout. Et c'est des choses qu'on avait un peu laissées de côté ces derniers temps pour faire d'autres choses. Mais là, on essaye de reprendre un peu ça aussi.
Ok. Question curieuse, vous avez fait l'ikigai de marque de Sios ou pas ?
Je suis en train de lire le bouquin, j'ai pas encore fini, j'essaye de travailler là-dessus. Ouais.
Un autre levier que vous avez utilisé pour grossir, donc on en discutait quand on préparait cet épisode, c'est Facebook Ads. Comment vous y êtes pris ?
Alors, Facebook Ads, vaste question. Je pense qu'au début, on faisait un peu n'importe quoi, mais finalement, ça coûtait pas cher et ça marchait bien, quoi. Maintenant que ça coûte plus cher, que c'est plus compliqué, on essaye de construire un peu plus. Après, tu sais mieux que moi, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle, donc il faut tester différentes. On a vu que les vidéos marchaient mieux, quoi, donc on fait une majorité de vidéos. Et après, on teste différents formats. Des fois, c'est moi qui parle. Des fois, on voit juste des artistes jouer. Ce genre de choses, quoi. Mais désolé, ouais, j'ai pas de recette miracle là pour Facebook Ads. C'est vrai que ça marchait bien au début. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Là, récemment, on s'est plus lancé aussi sur. Alors, c'est marrant parce que Google Ads, Google Shopping, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait jusque-là. Et là, on s'est lancé récemment et en fait, on a des meilleurs ROAS sur Google. Donc, moi, à la base, j'avais l'impression que c'était plus. Enfin, il y a quelques années, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus cher que Facebook. Mais là, j'ai l'impression que la tendance s'est un peu inversée, en tout cas pour nous. Donc là, on est un peu sur les deux canaux en parallèle avec des budgets à peu près équivalents pour l'instant.
Ok. Et c'est un canal. Si tu devais le qualifier, tu dirais que ça fonctionne ?
C'est toujours une grande question. En fait, quand tu regardes directement les attributions, surtout en ce moment, vu que le tracking marche pas forcément très bien, t'as l'impression que ça marche pas. Facebook, si tu regardes tes ROAS directement dans la plateforme, ils sont quand même toujours un peu pourris, quoi. Mais en fait, on s'est rendu compte, parce que en fait, c'était un peu mon problème. Et, l'année dernière, je crois fin 2020, on dépensait quand même pas mal et les ROAS étaient un peu nuls. Donc je me suis dit non, mais c'est pas possible. J'en ai marre de Facebook, j'arrête tout. J'avais gardé un peu de retargeting, mais c'est tout. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'on faisait plus. Enfin, qu'on avait vachement baissé notre CA et je comprenais pas pourquoi. Puis après, je me suis dit merde, mais en fait, c'est ça, c'est juste que tu ne vois pas forcément sur le coup, mais en fait, t'as quand même du trafic qui vient et ce trafic-là, t'en as besoin. Il convertira à un moment donné, pas forcément tout de suite, mais si t'es capable après, peut-être d'aller récupérer le mail, d'envoyer des mails ou ensuite de faire du retargeting, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, il ne faut pas arrêter les Facebook Ads.
Ok, je rajoute mon plus 1 sur cette dernière phrase, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire, de toute façon, vous avez compris que je suis extrêmement biaisé sur ce sujet. Et j'ai envie de parler du troisième. Enfin, je ne sais pas, le troisième, je ne sais peut-être pas la bonne numération. Mais tu nous as aussi parlé d'email avec un chiffre assez fort qui est que quasiment 30% de votre CA vient de l'email ou du moins passe par de l'email. Ça consiste en quoi la stratégie de Sios ?
Y a encore du travail à faire. Hein. Et d'ailleurs, on s'est donné comme objectif, justement, comme on a vu que ça convertissait bien, d'essayer de récupérer plus les emails. Parce que c'est vrai que c'est un peu dommage quand tu fais des pubs, tu fais venir les gens sur ton site et en fait, après, tu les perds un peu dans la nature si t'as pas récupéré leurs mails. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille un peu plus d'ici quelques mois. Sur l'email, là, on fait un peu les trucs classiques. Hein, mais déjà, les relances de panier abandonnés, c'est quand même pas mal. C'est des trucs qu'on finalement on fait pas toujours au début et quand même c'est bien de le faire. On a essayé aussi la relance de browsing abandonment là, quand t'as pas mis de panier mais que t'as quand même regardé. Et ça, moi j'y croyais pas trop et en fait ça marche aussi quand même bien.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui nous écoutent juste ?
En fait, c'est des gens qui ont vu un produit mais qui l'ont pas forcément mis dans le panier et donc on va quand même leur envoyer un mail. Une vingtaine de minutes après qu'ils aient quitté le site pour leur dire « Ah, mais vous avez vu ce produit, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez nous... » Nous, on est beaucoup reconnus pour notre service client, donc on a tendance à... Moi, dans ces mails-là, j'ai tendance à les rediriger vers le service client en leur disant « je fais souvent des mails assez personnalisés que je signe moi-même, où je dis « appelez-nous, on est dispo au téléphone ou par chat ». Et ça marche bien. Et puis après, on a pas mal de parcours de mails, les parcours pour les gens qui viennent de s'inscrire, pour leur raconter un peu l'histoire de Cios. Après, des parcours... qu'est-ce que j'ai d'autre comme parcours j'ai post-achat aussi. Là, c'est plus pour leur demander d'écrire des reviews. Ça a pas mal marché aussi hein, pour qu'on on a pas mal de reviews sur Google là, qu'on a eu grâce à ça. Et puis après, il y a les newsletters. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisait un peu, mais pas tant que ça. Et depuis quelques mois, là, on s'est dit qu'il faut en faire une par semaine. Et en fait, ça marche super bien, quoi. On fait toujours un bon chiffre avec les newsletters. Et moi, j'avais un peu peur au départ que peut-être les gens se désinscrivent, mais il y a peu de désinscriptions. Et par contre, derrière, ça convertit bien. Donc ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il faut pas avoir peur à envoyer souvent des newsletters, en fait. Et il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit très commerciale, en fait. Hein. Il suffit qu'il y ait un lien vers le site où on raconte un truc, on a un nouvel artiste, ce genre de choses. Les gens viennent et souvent, ça peut quand même convertir derrière, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Tout en haut du funnel, du coup, vous alimentez comment votre base email en nouveaux emails avec un lead magnet ?
Ouais, c'est une bonne question. Là-dessus, on n'est pas encore... Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a, par exemple, sur le site, on a un questionnaire où, en gros, c'est un peu un guide. Tu réponds à quelques questions pour décrire le son que tu recherches. Et nous, après, on va te conseiller des becs. Et pour avoir le résultat de ce quiz, là, il faut mettre son mail. Donc, c'est là qu'on leur demande de s'inscrire, de s'inscrire aussi à la newsletter ou alors directement sur le site. Il y a une barre de newsletter, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressante à faire en proposant peut-être un livre blanc ou des choses comme ça sur des sujets qui intéressent les musiciens pour récupérer un peu plus de mails. On a fait aussi un peu de lead gen sur Facebook en disant inscrivez-vous à notre newsletter pour bénéficier d'offres spéciales. Ça avait pas mal marché aussi pour récupérer du mail.
Pour reprendre juste un peu de recul, on a parlé de plusieurs éléments, donc sa stratégie ambassadeur, Facebook Ads et vos emails. Comment ça s'articule quand on a une présence multipée ? Est-ce que vous différenciez à chaque fois la stratégie ? Il y a un truc différent à chaque fois où vous arrivez à avoir une homogénéité et qui réfléchit à tout ça et comment ?
Ouais, moi j'aimerais bien avoir des trucs par pays là, mais c'est trop compliqué quoi. En fait, nous on est quand même vraiment sur beaucoup de pays. Alors on fait quand même une majorité de nos ventes aux États-Unis, mais après on a quand même on fait d'abord les États-Unis, après on fait France, UK, Union européenne, on a aussi un peu d'Asie, donc en fait, on n'a pas les moyens sur tout le temps pour tout différencier, donc en fait pour l'instant on a fait des trucs assez homogènes sur tous les pays. Le seul truc qu'on fait c'est qu'on a deux langues quoi, on a notre site qui est en français, en anglais et pareil pour les newsletters. Et finalement ça marche assez bien comme ça. J'ai l'impression que même si tu vois on est sur des pays différents et tout, le marché de la musique, la culture de la musique et tout, elle est quand même assez homogène quoi. Et par exemple sur les artistes, en fait t'as des artistes américains, et en fait, c'est les artistes américains qui rayonnent quand même sur toute la planète, quoi. Donc après, c'est bien aussi quand même d'avoir des artistes locaux pour le bouche-à-oreille et tout, mais en tout cas, je sais que c'est comme ça qu'en ayant des gros artistes connus aux États, enfin, américains, qu'on a eu des clients à Singapour, en Allemagne et au Royaume-Uni, quoi. C'est l'avantage, finalement, c'est l'avantage quand même du marché de niche, c'est que tes clients, tu sais où les trouver, parce que c'est pareil, hein, ils vont être dans les groupes Facebook qui parlent de saxophone, ils vont être sur les forums qui parlent de saxophone. C'est plus facile que des gens qui vendent, je sais pas moi, des vélos ou des produits de beauté, quoi, parce que là, bon, bah, c'est un peu tout le monde, mais tu sais pas trop forcément comment cibler les gens, quoi.
Et donc ça veut dire que toi, quand t'attaques un nouveau pays, tu le fais en fait principalement, ce que je comprends, via essayer de trouver un ambassadeur, peut-être des forums, des groupes locaux où les gens parlent de ces thématiques-là, et ça suffit pour une stratégie d'expansion internationale.
Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que nous, on n'a jamais vraiment attaqué un nouveau pays, en fait, parce que finalement, les pays se sont attaqués tout seuls, tu vois. En fait, nous, notre stratégie, c'était, oui, d'être à l'international. Bon, les États-Unis, c'est vrai qu'on a toujours visé, et ça, je pense que c'est quand même notre focus premier, et que voilà, pour aller aux États-Unis, on fait, bon, ceci dit, tous les salons de musique qui sont surtout aux États-Unis. Là, on va aller au NAMM en juin, c'est à Los Angeles. Moi, je suis allée beaucoup de fois à New York, à Boston pour organiser des événements là-bas, rencontrer les musiciens. Les États-Unis, c'est vrai que c'est un marché qu'on a focalisé, enfin, sur lequel on s'est focalisé. La France, parce qu'on était en France. Après, le reste des pays, finalement, on n'a pas fait de focus particulier. C'est juste que des fois, tu vois, tiens, j'ai une commande en Thaïlande, et tu voilà, c'est juste, j'ai rien fait spécialement sur la Thaïlande, et je vais quand même avoir une commande, tu vois, parce que voilà, c'est ce truc de je m'intéresse au saxophone, j'aime tel ou tel artiste, tiens, il joue avec Sio, ça, bah, je vais l'acheter, ou alors tiens, c'est quoi les nouveautés dans le monde du saxophone, et ça va un peu comme ça, quoi. Après, oui, j'imagine que si on veut creuser et on veut après, c'est ça, c'est qu'on là, on se retrouve quand même bloqué. Ok, je sais pas, typiquement en Italie, par le fait que notre site, il est pas en italien. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont intéressés par le produit, mais ils achètent pas sur le site parce que ils comprennent pas trop, ils comprennent pas trop ce qui se passe sur le site, quoi. Donc et puis ils vont pas nous contacter parce qu'ils parlent pas anglais. Donc au Japon, c'est pareil. Donc au Japon, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par un distributeur directement sur place. Là, on travaille avec un site internet qui vend au Japon, et là c'est plus simple pour nous de leur laisser un peu la main sur les produits et sur le marketing, même si bon, globalement, le marketing, faut quand même normalement que tu le fasses toi-même, parce que c'est pas toujours les distributeurs qui le font à ta place, quoi.
Tu nous parlais dans les opportunités pour de développer en futur, il y a un truc que vous avez pas du tout attaqué, c'est l'histoire des marketplaces. Pourquoi vous avez pas eu plutôt le réflexe d'aller fort dessus?
Et ben parce qu'on n'avait pas vraiment de produits à vendre là-dessus, en fait. Comme je te disais avant, les becs custom, les becs sur mesure, bah, c'est compliqué à vendre. En fait, on peut les vendre que sur notre site, parce que du sur mesure, voilà, c'est compliqué. Les becs qu'on avait signature, c'est pareil, c'était pas, il y avait trop d'options, il y avait trop de trucs, trop de modèles. Du coup, c'était pareil, c'était un peu compliqué. Et là, avec notre nouvelle gamme, qui est quand même beaucoup plus simple, il y a que donc 3 produits par saxophone. Bon, ça fait déjà plus les couleurs et tout. Bon, ça fait quand même déjà plusieurs options, mais c'est plus simple, c'est plus facile à brander, c'est plus facile à comprendre. Et donc c'est là qu'on s'est dit, bon, ça, c'est notre nouvelle offre qui nous permet de nous développer en retail, quoi. Et donc en retail dans les magasins de musique, et après sur les marketplaces. Et c'est vrai que ça marche bien, parce que les magasins de musique qu'on contactait avant, en fait, je raconte pas l'histoire pour leur demander de choisir une liste de produits quand t'as une liste de 60 musiciens avec qui t'as fait des collabs et tout, et qu'en plus à chaque fois il y a 10 ouvertures différentes et 10 couleurs. Ça prenait des plombs, mais ils n'arrivaient pas à choisir et on s'en sortait pas, alors que maintenant on a ces 3 produits, voilà, c'est ça qu'on leur propose et c'est ça qu'on met. Et là, c'est ça que j'ai mis sur Amazon récemment pour avoir, ouais, vraiment peu de produits, essayer de récupérer assez rapidement des reviews sur ces produits là et les pousser un peu plus, quoi.
Très clair, écoute, je n'ai pas forcément de questions de plus de préparation, c'était très bien comme réponse, très synthétique et droit dans le mille. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vais te poser la question finale de ce format que tu connais peut-être. Je ne sais pas si je t'en avais parlé durant la préparation de l'épisode, sinon ce sera du freestyle. C'est, y a-t-il une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance?
C'est pas facile comme question, il y en a plein. Après, je dirais que là, ceux que j'ai vus souvent récemment, et je trouve ça intéressant, c'est les mini-mondes qui font des jouets pour enfants. Et je trouve intéressant leur façon de se développer en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de collabs avec sur des sujets où tu les attendrais pas forcément, quoi. Et c'est ça que je trouve ça assez intéressant à chaque fois, ce qu'ils proposent. Ça va de Poké, je sais plus quoi, la chaîne de Pokéball, là, des petits vélos pour enfants. Pareil, je trouve que leur idée de louer un van, alors d'offrir un van, alors un van en libre accès à leurs clients et tout, je trouve qu'il y a des idées marketing qui sont originales et qui changent un peu de ce qu'on peut voir, généralement.
Ok, j'aime aussi beaucoup les mini-mondes. Plus pour la partie acquisition. Non, en effet, c'est une bonne référence qui n'a, je crois, pas encore été citée sur les 35 épisodes qu'on a fait. Donc, félicitations, une première.
Ah, je suis contente.
Bon, top. Écoute, merci beaucoup, Pauline, de m'avoir accordé ce temps. Je vais te laisser le mot de la fin en disant où est-ce qu'on peut retrouver Sios et où est-ce qu'on peut te retrouver toi, et on va pouvoir se quitter gentiment.
Oui, alors vous pouvez retrouver Sios sur notre site. Hein, c'est sios.co. Et puis après on est pas mal sur les réseaux sociaux, donc venez nous suivre sur Instagram, on est bien actifs. Sur TikTok aussi, on a besoin de followers là, donc venez sur TikTok. Et puis moi vous pouvez me suivre sur LinkedIn avec plaisir. Je sais pas si je dois le dire, mais je me suis lancée aussi sur TikTok personnellement là, c'est pas encore top, mais bon voilà. On va voir ce que ça donne.
Bon, top, vous avez retenu. Je vais vous dire au revoir à tous nos petits auditeurs et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Ciao à tous et merci encore, Pauline.
Merci, salut.